On va arranger ceux qui peuvent le faire le test chez eux comme ça pour ça. On peut faire ça, puis après on verra. Qu'est-ce que vous voulez. Bon. Alors, nous avons un dernier point à examiner. C'est vrai que c'est un peu court pour le faire, hein, mais je vous ai laissé beaucoup la parole hier. Je crois que c'était bien aussi. Donc, tant pis. Le dernier point, c'est le point 5. 6, pardon. Bon. Alors, c'est le commentaire, donc, des paroles du Pater. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Chapitre 38 à 42. Je vous ai donné 5 points que nous allons dérouler rapidement, d'une manière synthétique. On ne va pas tout voir. Mais vous allez voir que ça concerne ce que j'avais évoqué au début avec vous, la question de la sécurité, de l'assurance, de la certitude, de la paix dans la vie de la grâce et la vie spirituelle. Et cela touche évidemment... et c'est vérifié par les corrections apportées par les censeurs, aux questions posées au Concile de Trente. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, à mesure que Thérèse scrute les richesses du Pater, son admiration grandit. Ses deux dernières demandes vont lui permettre d'approfondir un aspect qu'elle n'a pas abordé jusqu'à maintenant. Elle dit que le contemplatif est confronté à deux tentations opposées. La tentation des fausses sécurités et la tentation des fausses humilités. Fausse sécurité, fausse humilité. Alors, de quoi s'agit-il? La tentation des fausses sécurités, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'elle va nous donner certaines dimensions de la vie spirituelle auxquelles on ne pense pas toujours, mais c'est assez éclairant, vous allez voir. Le contemplatif véritable ne redoute pas les souffrances pour le Christ, les épreuves. Il ne demande pas d'en être délivré. Délivre-nous du mal. Il ne demande pas d'être délivré des épreuves. Il reçoit la force de Dieu, il va au contraire au-devant des combats et des ennemis extérieurs. Il y a un mal, il y a un ennemi plus intérieur, plus insidieux qui le menace, dit Thérèse. La tentation de croire qu'il a acquis certaines vertus alors qu'il ne les possède pas. Ou de croire que le Seigneur lui a donné cette vertu et qu'elle est définitivement en sa possession. Donc il est sûr de son coup. Il est déjà un saint. Il est bien. Thérèse dit aux sœurs, « Ne l'avez-vous pas observé en vous, mes sœurs ?» Alors, elle fait part de son expérience avec ses illusions et ses faiblesses. Ainsi, il lui semble que habituellement, elle est détachée de tout. Elle peut le prouver le moment venu. Et puis, à certaines occasions, elle se découvre si attachée à des détails dont elle se serait moquée la veille qu'elle ne se reconnaît plus. Elle pense qu'elle a beaucoup de force intérieure, de force d'âme, et puis certains jours, et elle dit qu'habituellement elle est comme ça, elle ne recule devant rien pour le service de Dieu. Et elle dit, voilà que le lendemain, je me sens incapable de tuer une fourmi pour Dieu. Ah. Si elle y rencontre la moindre contradiction. Habituellement, elle ne fait pas attention aux critiques, aux calomnies, elle s'en réjouit plutôt et elle prie pour ceux qui la persécutent. Et voilà qu'un jour, un autre jour, la moindre parole l'accable, et elle voudrait quitter le monde car il la fatigue en tout. Bien. Est-ce que nous sommes si sûrs de posséder la patience? Est-ce qu'elle ne va pas s'écrouler à la moindre parole hostile? De même, la pauvreté d'esprit, nous persuadons que nous n'avons aucun désir, aucun souci de rien, tout nous est indifférent. Mais on nous offre quelque chose qui n'est même pas nécessaire et tout notre esprit de pauvreté ou toute notre pauvreté d'esprit s'effondre. Voilà. Jusqu'à la vertu d'humilité dont nous sommes capables de nous vanter. Il semble que nous ne désirons aucunement les honneurs, mais si quelque chose se présente pour nous faire monter, nous n'hésitons pas. Enfin, la pénitence, nous nous croyons très pénitents, très mortifiés. Nous l'exagérons parfois pour nous donner l'assurance que nous sommes plus mortifiés que les autres et que nous faisons quelque chose. Mais nous n'en parlons pas au confesseur ou au supérieur, alors nous sommes en dehors de l'obéissance. Elle conclut, « Puisqu'il en est ainsi, qui sera capable de dire de lui-même qu'il possède une vertu, qu'il est riche de cette vertu, puisqu'au moment où il en aura besoin, il s'en verra dépourvu. » Ça va ? Bon, c'est assez cinglant. 38.7, 784. Alors, c'est un peu l'illusion, la fausse sécurité entretenue. Et elle dit que c'est une tentation, ne nous soumet pas à la tentation. C'est une tentation redoutable. Pourquoi ? Parce qu'elle nous rend négligents. Nous négligeons d'acquérir la vertu que nous croyons posséder déjà. Et elle fait que nous ne sommes pas vigilants. Nous nous figurons que pour rien au monde, nous retomberions dans les fautes passées. Nous ne prenons pas garde aux occasions et nous y tombons la tête la première. Cela affaiblit l'humilité. Nous oublions que ces vertus sont un trésor reçu de Dieu, il nous l'a confié et il peut nous le retirer. Ce que dit Thérèse de Lisieux dans les derniers entretiens. Ce trésor est toujours le trésor du bon Dieu. Même si vous possédez des vertus, craignez de vous tromper. Celui qui est véritablement humble n'est jamais assuré de ses propres vertus. Et très ordinairement, celles qu'il voit dans le prochain lui paraissent plus certaines et de plus grand prix. Plouf. 38.9, 786. Ça va ? Premier extrême, première tentation. Autre extrême, autre tentation. Alors c'est tout le contraire, la tentation des fausses humilités. À l'opposé, c'est aussi dangereux. Alors là, elle dit, c'est le démon qui nous inspire une grande inquiétude sur la gravité de nos fautes. Il nous opprime dans tous les sens. Il nous éloigne de l'oraison et de la communion eucharistique. Nous n'osons nous approcher de ce sacrement de l'amour. Nous passons le plus clair de notre temps à nous demander si nous sommes bien disposés. Scrupule. Nous en venons à douter de l'utilité du bien que nous faisons, à trouver mauvais en nous ce qui nous paraît bon chez les autres, à voir le danger partout, à tel point que finalement nous perdons toute confiance en la miséricorde de Dieu et que nous renonçons à la perfection entrevue. Faites très attention, mes filles, à ce que je vais vous dire sur ce point. Certaines fois, ce sera humilité et vertu que de vous juger misérable, et d'autres fois, une grande tentation. Tentation des fausses humilités. C'est très intéressant parce qu'elle va opérer un discernement qui est tout à fait dans la ligne du discernement d'Ignace. Hein, et elle va montrer, elle va donner des critères pour savoir repérer cette fausse humilité. Et ce chapitre qu'elle donne, le censeur a mis en haut, ce chapitre est très, très important. À ceux qui sont tentés de fausse humilité et aux confesseurs, ce chapitre est très utile. Donc c'est intéressant. C'est le critère de l'équilibre et de la paix qui est opéré par la véritable humilité. Mais Thérèse dit, « Comme j'y suis passé, je sais ce qu'il en est. » L'humilité n'inquiète pas, elle ne trouble pas, si grande qu'elle soit, elle n'agite pas l'âme, mais elle s'accompagne de paix. Là, c'est 39.2, 787-788. Elle s'accompagne de paix, de joie et de repos. Bien qu'à la vue de notre misère, nous comprenions clairement que nous avons mérité l'enfer, que nous en éprouvions de la douleur, et estimions qu'en toute justice, tout le monde doit nous haïr, et que nous osions à peine demander miséricorde, cette douleur s'accompagne, lorsque l'humilité est bonne, d'une telle douceur et satisfaction que nous ne voudrions pas en être privés. Elle n'agite pas l'âme et ne l'oppresse pas. Au contraire, elle la dilate et la rend apte à servir Dieu davantage. Cette autre peine, les fausses humilités, trouble tout, agite tout. Elle bouleverse complètement l'âme, elle est très pénible. Je crois que le démon cherche à nous persuader que nous sommes humbles et s'il le pouvait à la longue, nous amener à perdre toute confiance en Dieu. Vous voyez ça ? Bien, donc, deuxième écueil, à l'opposé, à l'autre extrême, les fausses humilités, fausse sécurité, la suffisance, la présomption, et de l'autre côté, fausse humilité, le désespoir. Ça va ? Alors, Thérèse dit, entre ces deux écueils, que faire ? Que faire entre ces deux tentations ? Est-ce que nous allons être ballottés entre ces deux dangers constamment, entre ces deux écueils, ces deux ennemis intérieurs opposés ? Est-ce que nous n'allons pas pouvoir enfin avancer en sécurité sur ce chemin de la perfection chrétienne ? Est-ce qu'on ne va pas se décourager en voyant qu'il y a tant d'angoisse et de danger ? Elle est perplexe. Bon maître, donnez-nous un remède pour vivre sans trop d'alarme au milieu de combats si périlleux. Parce qu'évidemment, dès qu'elle emploie le mot sécurité et sûr, le censeur est là, il raye. C'est pas possible. On ne peut pas avoir de certitude de sécurité. Le Concile de Trente a dit que il n'y a pas de certitude de la grâce et d'assurance et de certitude des vertus surnaturelles. Donc on ne peut pas dire qu'on est en sécurité et qu'on est certain. D'accord ? Alors elle est corrigée mot à mot sur cette question-là. Donc elle est là, que faire ? Que penser ? Comment s'y retrouver ? Où avancer ? Vous voyez la question ? Alors elle répond. 41. En avance, vous voyez. 41 et 42. Le double remède à cette double tentation, c'est l'amour et la crainte. L'amour nous fera presser le pas. La crainte nous fera regarder où nous posons les pieds afin de ne pas tomber sur un chemin semé de tant d'embûches. Avec cela, nous ne serons sûrement pas trompés. L'amour et la crainte de Dieu, je coupe, ce sont deux châteaux forts. Vous voyez, on retrouve les châteaux forts du début du chemin. Le petit château dans lequel les vrais chrétiens sont réfugiés avec les capitaines. Ça, c'est le château. Alors là, c'est deux châteaux forts de l'amour et de la crainte, d'où l'on fait la guerre au monde et aux démons. Alors la question, et les censeurs sont là, ils la guettent. Comment savoir si on possède réellement ces deux vertus ? Ça nous serait bien utile de savoir pour avancer tranquillement. On ne peut pas en avoir une certitude absolue, pas plus qu'on peut avoir l'assurance d'être dans la grâce et le censeur ami, à moins d'une révélation privée, c'est ce que dit le Concile de Trente après saint Thomas d'Aquin. Bon, très bien. Donc, mais, que faire ? Que penser ? Comment agir ? Comment s'en sortir ? Comment avancer ? Comment avancer surtout pour elle ? Si on ne peut pas avoir de certitude, puisque la Sainte Église nous dit qu'on ne peut pas en avoir. D'accord ? Bon. Alors, malgré tout, pour elle, si on ne peut pas avoir d'assurance, de certitude que nous possédons ces vertus, on les reconnaît à leurs fruits. C'est l'Évangile, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et elle va nous faire comprendre, vous voyez, Sainte Thérèse, elle dépasse les problèmes posés par les censeurs, c'est ça les saints. Il y a des signes, des preuves de l'amour et de la crainte, c'est clair. Mais surtout, l'amour, s'il est véritable, ne peut pas passer inaperçu, il rayonne. Donc, plutôt que de parler de certitude et d'assurance, elle va parler en termes de rayonnement. L'amour rayonne, ne peut pas passer inaperçu. Ceux qui aiment Dieu aiment aussi tout ce qui est bon. Ils cherchent toujours la compagnie des bons et les soutiennent. Les richesses, les plaisirs, les honneurs ou les querelles, les envies, ce qui est vain ou faux, sans consistance ou indigne d'être aimé, cela ne retient pas leur amour. Ils vivent pour plaire à Dieu et être aimés de lui. Et un tel amour ne saurait demeurer caché. Saint Paul, Marie-Madeleine, ne pouvaient pas contenir l'amour qui les embrasait tout entier. C'est un grand feu. Il ne peut que donner de la splendeur. L'amour rayonne. Splendeur. D'accord ? C'est ça la splendeur. Vous avez ça, 44 ou 792. C'est un grand feu, il ne peut donner que de la splendeur. Elle dit, quand on voit des amoureux, l'amour humain, c'est déjà ça, une créature pour l'autre, ils n'arrivent pas à dissimuler, on les voit toujours, on les prend toujours en train de s'embrasser, tout ça. Donc, à plus forte raison, l'amour de Dieu, il ne va pas pouvoir rester caché. Il va rayonner, parce qu'il est fondé sur un amour solide. Ce n'est pas seulement un amour de créature, un amour humain. Il est fondé sur l'amour du Seigneur, qui en a donné une preuve manifeste dans sa souffrance et dans sa mort. L'amour du Seigneur dans sa passion rayonne, il se voit. Et si l'amour en nous ne rayonnait pas, alors on pourrait craindre de vivre dans l'illusion. Il faut implorer le Seigneur de nous donner l'amour pour qu'au jour du jugement, nous ayons de l'assurance en nous rendant non pas en terre étrangère, mais chez nous, chez celui que nous aimons tant et qui nous aime. Assurance. Là, elle retrouve l'épître de Saint Jean, il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour bannit toute crainte. D'accord ? Elle retrouve ça. Elle ne le cite pas, mais elle retrouve. Donc vous voyez, elle s'exprime davantage en termes de rayonnement et d'exigence de l'amour que de certitude ou de possession. Certitude, possession des vertus de l'amour, c'est un vocabulaire statique. Et ça fait redouter qu'on ait un peu une suffisance, une présomption, un orgueil. Hein, c'est clair. C'est là-dessus que lutte le Concile de Trente. Ça va, et le censeur. Mais elle dépasse le problème. Vous voyez ça ? L'amour est splendide, la splendeur de l'amour. Donc il rayonne dans le cœur et la vie des saints. Et il est constamment référé à l'amour du Christ dans sa passion. Ça va ça ? Donc rayonnement. Pas certitude, vous voulez pas de certitude ? Non, pas de certitude. Vous voulez pas d'assurance ? Pas d'assurance, c'est pas grave. Rayonnement. Splendeur de l'amour, ça va ? Elle est forte, hein ? Elle est forte. Pour la crainte alors, puisqu'elle dit l'amour et la crainte, comment savoir si on a aussi la crainte de Dieu ? Elle dit que c'est l'amour qui fortifie la crainte et qui l'enracine. Et elle est bien reconnaissable. Ce n'est pas du tout les fausses peurs inspirées par le démon qui nous fait oublier les miséricordes du Seigneur. Quelle est cette crainte ? Elle se reconnaît à la grande détermination de perdre 1000 vies plutôt que de commettre un seul péché mortel. Elle se reconnaît au souci de ne pas offenser Dieu par le moindre péché véniel, du moins en pleine advertance. Alors vous avez ça, 45. Oui, 45, ouais, c'est ça. Non, 41.3, pardon, je me trompe. 41.3, hein, et 40, oui, 41.3 et 41.3, c'est ça. 41.3. Et elle dit, une telle crainte d'offenser Dieu sera communicative. Elle a observé que chez un vrai serviteur de Dieu, par sa seule présence, sans qu'il parle, eh bien, dans son entourage, on évite d'offenser Dieu. Sa seule présence empêche qu'on offense Dieu. La grâce rayonne. Il impose du respect. On craindra de peiner ces personnes en les voyant si sensibles aux offenses que l'on fait à Dieu. Elle invite ses sœurs à progresser dans la crainte de Dieu, avoir une conscience vive de la gravité du péché. Elle dit « péché de propos délibérés, c'est offenser Dieu ». Et ça, c'est une chose qu'il y a dans le livre de la vie qui est très forte chez elle. Quand on pêche en Dieu, en étant en Dieu. Parce qu'on est en Dieu, on est dans la présence de Dieu, on est enveloppé par Dieu. Et donc, on a l'audace de pécher contre Dieu, en Dieu. Vous voyez ça ? C'est ça qu'elle veut faire comprendre. Seigneur, bien que cela vous déplaise, je vais faire cela. Je vois bien que vous le voyez. Je sais que vous ne le voulez pas et je le comprends, mais je préfère suivre mon caprice et mes désirs plutôt que votre volonté. Elle est très réaliste. Pour nous dire comment on pêche, finalement. 41.3, ça va ? Bon. Alors, elle dit comment ?
C'est la crainte d'offenser Dieu.
Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Donc elle dit, on a conscience de cette gravité du péché, alors il faut être vigilant, fuir les occasions de péché et les relations qui éloignent de Dieu. Les chutes, elles sont inévitables, le juste pêche 7 fois par jour. Nous sommes fragiles, mais par ces chutes, nous nous rendrons compte... En nous va s'affermir la détermination de ne plus offenser Dieu et surtout la défiance de nous-mêmes. C'est de lui que doit venir notre confiance et non pas de nous. Défiance de soi-même, confiance en Dieu. 41.4. Vous voyez, c'est une crainte qui est faite de défiance de soi, de confiance en Dieu. Et elle dit, à partir de là, on peut marcher avec une sainte liberté. Avec largeur et ouverture d'esprit dans les contacts, les conversations. Elle dit, il ne faut pas être encapuchonné, il ne faut pas être étroit d'esprit, il ne faut pas être toujours là tendu à se demander si on ne va pas pécher. Elle ne veut pas de scrupules. Ça intéresse vraiment l'opposition aux scrupules. Parce que nos scrupules, non seulement nous paralysent, mais éloignent le prochain de Dieu, au lieu d'en rapprocher. Parce qu'il voit des gens tristes, renfrognés, qui sont là comme ça, dans un jansénisme, le jansénisme n'existait pas encore. Enfin, elle fait comprendre que, au contraire, ça éloigne les gens de Dieu plutôt que de les rapprocher. Vous voyez ça, c'est intéressant aussi. Et en plus, nous sommes portés, si nous sommes trop étroits et trop scrupuleux, à juger les autres avec pharisaïsme, parce qu'ils empruntent d'autres chemins, ils sont beaucoup plus libres d'esprit. Hein. Tâchez donc, mes filles, de comprendre que Dieu, à la vérité, ne s'arrête pas, comme vous le croyez, à tant de détails. Ne laissez pas votre âme et votre esprit se rétrécir, vous pourriez perdre beaucoup. Gardez votre intention droite, votre volonté déterminée, comme je l'ai dit, à ne plus offenser Dieu. Ne laissez pas votre âme se coincer, elle dit. Au lieu d'obtenir la sainteté, vous en tireriez beaucoup d'imperfections que le démon suscitera en vous par ailleurs, et vous ne seriez utile ni à vous ni aux autres autant que vous le pourriez. Voilà, intéressant ça. C'est pas seulement pour soi, mais c'est vis-à-vis des autres. C'est l'apostolat, le témoignage. Donc c'est 41.8 ça. Donc c'est une crainte paisible, confiante, magnanime qu'elle veut inspirer. Et on termine, ben c'est bon. Cela se dénoue aussi totalement, hein, mais délivre-nous du mal par l'acceptation de l'insécurité dans la vie chrétienne. Vous voyez maintenant comment avec ces deux choses, l'amour et la crainte, vous pouvez avancer en paix sur ce chemin, sans voir à chaque pas un trou où vous pourriez tomber. On n'est pas là pour voir les obstacles, on avance. Vous voyez ça ? Elle est intéressante à ce niveau-là. Vous n'en finiriez pas d'arriver. Vous n'êtes pas là pour observer où vous allez tomber. Vous regardez, vous allez de l'avant. Hein ? Pas mal ce texte. Hein ? Voilà. Bon, celui-ci, il est dans l'Escorial. Hein ? Il n'est pas dans Valladolid. Ça va ? Il était bien, c'est dommage. Hein ? Alors, voilà ce qu'elle dit. Même si elle donne dans Valladolid davantage le dernier mot à la crainte, vous voyez comment, à l'aide de ces deux choses, l'amour et la crainte de Dieu, nous pouvons avancer sur ce chemin paisiblement et sans trouble. Hein, 214, voilà. Mais sans pour autant cesser d'être sur nos gardes, puisque la crainte doit toujours aller en tête. Car il ne peut y avoir de sécurité tant que nous sommes en cette vie, ce serait un grand danger. 41.9. Comment accepter cette insécurité? Ce n'est possible que par l'espérance d'être un jour délivré de tout mal. Mais délivre-nous du mal. C'est un grand acte d'espérance que cette demande. Délivre-nous du mal, amen. Cela renouvelle la confiance de Thérèse. Le Seigneur le promet, un jour, elle se verra délivrée de tout mal. Le soleil de justice sera sans couchant. Elle possédera en pleine sécurité les biens du royaume qu'elle entrevoit dans la contemplation. Aussi elle demande, « Seigneur, délivrez-moi de tout mal, à jamais. Conduisez-moi là où se trouvent tous les biens. » Amen. Le mal et le péché prendront fin. Le danger et l'insécurité ne sont que pour cette vie. Voilà l'acceptation de Thérèse. Très intéressant ça. L'acceptation de l'insécurité de cette vie avec cet horizon eschatologique de la fin du mal, hein, et de la pleine sécurité dans le bien et les vertus et l'amour. Voilà. Le soleil de justice sera sans couchant, c'est le soleil de justice du Christ. Voilà, nous en avons terminé avec ce que je voulais dire. Alors, maintenant, si vous voulez bien prendre une feuille...